Alors j'avais une première question à vous poser ce matin, une question vraiment très importante, mais vraiment très importante. Qui peut me citer ici le titre d'un album d'Astérix ? En Corse ? Ouais. Astérix et ? Ouais. Mince. Je voulais que ça vienne plus tard. Astérix ? C'est quoi ça?
C'est un album où j'ai eu le plaisir de travailler il y a 35 ans. Et on a fait un album, Astérix, je pourrais vous montrer ce numéro à vous. Il est classé dans le top niveau, il a été produit en 5000 exemplaires. Et j'en ai 3 exemplaires à vous.
Ah!
La Traviata.
La Traviata, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
C'est
des gènes. Domaine des dieux, Cléopâtre, chez les Belges, en Hispanie. Bon, franchement, je pense que vous connaissez mieux la liste des Astérix que la liste des livres de l'Ancien Testament. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est dans notre inconscient collectif tout ça et on le sait bien. Alors moi, j'attendais au bout de la 10e citation le titre que je souhaitais, mais il est arrivé dès le début, c'est la zizanie. La zizanie, bravo Garance. Et dans ce 15e album d'Astérix, il y a un personnage dont le nom est savoureux, il s'appelle Tullius Détritus. Et ce Tullius Détritus, il sème la zizanie partout où il passe. Semer la zizanie, c'est une expression qu'on connaît bien, hein, elle est passée dans le langage commun et on va y revenir. Et on va y revenir à travers la parabole du bon grain et de l'ivraie que Jésus raconte à un moment donné. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait ça. » Alors les serviteurs demandèrent « Mais veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson, à ce moment-là je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Le contexte de cette histoire, c'est le suivant. C'est Jésus qui, à un moment donné, enseigne à la foule un certain nombre de choses. Et si l'on s'en réfère au texte très structuré, très organisé de l'évangile de Matthieu, le moment de ces récits, ça prend place après une série de frictions qui ont eu lieu avec les pharisiens, quoique... et les spécialistes de la loi. Et le discours de Jésus commence à ce moment-là à créer des remous sérieux avec les autorités religieuses et à susciter l'incompréhension, et même dans sa propre famille. Donc, le contexte, c'est que Jésus s'adresse à une foule à laquelle il a dit déjà beaucoup, beaucoup de choses. Cette foule, elle a vu des miracles s'opérer de sa part, et elle est littéralement aimantée, on le voit bien quand on lit les évangiles. Elle a déjà eu son lot d'enseignements et puis de preuves via les miracles, et certains ont cru et ont été guéris. Et Jésus, autour du lac de Galilée, là, maintenant, il est bien connu, il est bien installé dans le paysage. Et c'est le moment, si l'on en croit Matthieu, mais on peut voir aussi dans Marc, dans l'évangile de Marc, la même chose. C'est le moment où Jésus se met à enseigner de plus en plus en parabole. Et il devient de moins en moins évident à suivre, parce que la parabole, c'est quand même un genre un peu particulier. Matthieu 13, 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et c'est tellement particulier que les disciples ont perçu le changement et ils s'approchent de Jésus, ils lui demandent « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» C'est nouveau ça, sous-entendu. Pourquoi leur parle-t-il ainsi ? Parce qu'il est maintenant temps de faire un effort et de sortir de la culture des automatismes. Parce que le contexte de l'époque, c'est que cette foule et ses chefs religieux baignent dans une culture religieuse qui n'interroge plus rien et qui ne s'interroge plus du tout sur le sens des choses. Lisons Matthieu 13, versets 11 à 15. Il répond Jésus aux disciples, « Vous, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, écrivait Ésaïe, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et se sont bouchés les yeux de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Et ce que Jésus annonce là, en reprenant les paroles d'Ésaïe, qui sont comme une vieille chanson, ce sont des textes connus dans la culture locale, la culture de l'époque. C'est des chansons connues dans la tête des disciples que ces textes-là, pour tous ceux qui ont fréquenté la synagogue. C'est une façon de dire aux disciples, vous connaissez bien, vous, ce refrain auquel plus personne ne fait attention à la synagogue. On lit les textes, mais on les écoute d'une façon très discrète, distraite. Eh bien, le moment est arrivé, c'est une façon de s'exprimer de la part de Jésus, ce moment, c'est celui de la recherche, de l'interrogation personnelle. Le moment où on n'écoute pas d'une oreille distraite ce qu'on a entendu des dizaines et des centaines de fois sans y réfléchir. C'est le moment où on n'est plus nourri à la béquée par des prières automatiques, par des sacrifices rituels, par des habitudes paresseuses, par des citations mécaniques de versets. Il ne s'agit plus ici, à travers la parabole employée par Jésus, de croire par procuration. Et d'une certaine façon, Jésus prévient, je vais parler en parabole. Et il va falloir faire l'effort d'en saisir le sens, car si la parabole révèle des choses, elle en cache en même temps. Et Jésus le sait bien, c'est là qu'on va voir ce que Ésaïe prévoyait, annonçait. Certains préféreront se boucher les yeux et les oreilles. Pour ne pas voir, pour ne pas entendre, pour ne pas comprendre, pour ne pas se tourner vers Dieu afin d'être guéri. Matthieu 13, versets 34 et 35, Jésus enseigna toutes ces choses aux foules en employant des paraboles et il ne leur parlait pas sans parabole. Vous voyez le virage qui a été pris. Ainsi s'accomplissait la parole du prophète, j'énoncerai des paraboles, je dirai des secrets cachés depuis la création du monde. Et pour en finir avec le contexte de cette parabole, on va revenir au récit. Il faut bien se souvenir que s'exprimer ainsi, ce n'est pas tout à fait nouveau à l'époque. Le Premier Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, mais on pourrait peut-être plutôt l'appeler le Premier Testament, est plein de ces expressions indirectes. Il y a des images, il y a des métaphores, il y a des allégories sans arrêt. Et la langue orientale elle-même, elle est porteuse de toutes ces images, de toutes ces métaphores et ces allégories. C'est sa caractéristique. La parabole, elle était très répandue au moment où Jésus vivait sur terre. Et même si les sages illustraient leur enseignement avec ça. Mais la différence avec Jésus, c'est qu'il ne fait pas simplement qu'illustrer, il enseigne à partir d'une parabole. Et c'est très différent que de donner un exemple, d'illustrer, et que de partir d'une réalité pour aller vers une réalité spirituelle. Voilà comment Jésus enseigne tout d'un coup en parabole. Et c'est un point de départ pour ouvrir à de nouvelles réalités. C'est fait pour questionner. Et Jean-Marc Thaubois dit d'ailleurs que le but des paraboles, c'est extrêmement pratique. En fait, ça doit nous servir à savoir quelle attitude juste adopter. Dans la perspective apocalyptique que Jésus va, y compris aborder à travers cette parabole, quelle attitude choisir ? Ces paraboles, c'est un monde. Alors, vous avez un livre dans la bibliothèque qui est celui de Didier Roca. Didier Roca s'est attaqué aux commentaires, oui, ça commence à faire épais, hein, plus de 500 pages, aux commentaires de 42 paraboles, les 42 paraboles de Jésus dans la Bible. Il y en a 42. Voilà. Et même au bout de ce livre, il dit, oula, j'ai sans doute fait qu'effleurer le sujet, quoi. Voilà. Eh bien, les paraboles auxquelles nous intéressons aujourd'hui, ce sont les paraboles du royaume. Les sept, on ne va pas parcourir les 42, on ne va même pas parcourir les sept. Mais il faut simplement savoir que celle que nous regardons aujourd'hui de plus près, elle est dans ces sept paraboles du royaume. Et ces paraboles, en fait, elles ont une caractéristique, c'est que chacune, dans ce chapitre de Matthieu 13, dit quelque chose qui nous aide à comprendre ce que le royaume de Dieu est. Voilà. C'est un petit peu comme si vous faisiez un tableau, vous ajoutez une dimension, puis une autre dimension, puis une autre dimension, et vous commencez à voir un peu mieux ce que ça veut dire au royaume de Dieu quand Jésus en parle. Ces sept paraboles, elles décrivent donc cette nouvelle réalité du royaume qui est initiée par la venue du Messie, je dis bien initiée, et d'ailleurs on s'aperçoit que Matthieu, il n'aime pas trop parler du royaume de Dieu. Il dit plutôt le royaume des cieux, parce que pour lui, qui est d'origine juive, prononcer le mot de Dieu, c'est toujours, on le fait toujours avec une extrême réserve, avec beaucoup de retenue. Et donc, Matthieu n'emploie pas tellement le terme de royaume des dieux, il emploie plutôt le terme de royaume des cieux, pour cette raison, contrairement aux autres évangélistes. Alors, si nous revenons au texte de la parabole, bon, je l'ai remise entièrement sur une diapositive ici. Bon, c'est une histoire simple, hein. C'est du quotidien agricole. Simple. Il y a un projet qui est contrarié par de la malveillance. Il y a des serviteurs qui ne demandent qu'à rendre service. Et finalement, il y a le choix de sortir de cette situation sans trop perdre de récolte. Et en attendant, pour se faire la moisson. Voilà, ça, c'est l'histoire. Et puis, c'est une parabole qui, finalement, parle autant du bon grain que de l'ivraie. On la voit toujours dans les versions de nos Bibles, souvent, c'est titré la parabole de l'ivraie ou de la mauvaise herbe. Mais en fait, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie, pas simplement de l'ivraie. Alors, pourquoi on insiste sur l'ivraie souvent ? Parce que l'ivraie, c'est quand même un peu embêtant. C'est une plante graminée dont le fruit n'est pas très sain. Et les spécialistes nous disent que consommée à forte dose, cette ivraie, elle provoque des troubles de la perception et des nausées. En fait, l'ivraie, c'est un hallucinogène. Et quand on regarde l'origine latine, cette fois-ci, ivraie, ça vient de ebrietas en latin, et ça a donné évidemment en français, ébriété. On est un peu ivre, avec l'ivraie. Et effectivement, c'est zizania en grec. Zizania en grec. Et semer la zizanie, ça n'est rien d'autre que de semer de la mauvaise herbe. Hallucinogène. Et quand on regarde cela, on a un peu l'impression dans cette histoire bon, qu'on a affaire à un fait divers qu'on pourrait lire dans Midi Libre le lundi matin, hein, et que c'est juste un acte malveillant entre agriculteurs voisins, et pas plus. Et parce que c'est trop simple, les disciples sont quand même très perplexes et ils vont demander un peu plus. Ils vont demander un besoin des explications. Dans ces sept paraboles du royaume, quand vous regardez le Saint-Nevé, quand vous regardez le Levain, bon, c'est plus immédiat, c'est plus intuitif. Dans le grain de Saint-Nevé, c'est quoi le royaume? C'est quelque chose qui commence tout petit et qui devient énorme, comme un arbre, sur les branches duquel on vient se réfugier de toutes parts. Bon, ça, on peut le saisir assez vite. Quand on regarde le Levain, oui, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui, au départ, est caché, qui agit de façon secrète, y compris dans les cœurs. Et on peut saisir ça assez vite aussi. Mais quand on regarde cette parabole du bon grain de l'ivraie, c'est un peu plus compliqué. Et eux, en tout cas, ils sont perturbés. Ils sont perturbés parce que ils viennent d'entendre une autre parabole sur le semeur avec les fameux quatre terrains différents. Ils ont peut-être un peu l'impression que c'est une extension de la première parabole. Il y a aussi un semeur. Bon, mais là, la plante ça semble lever correctement, donc c'est le quatrième terrain de la parabole précédente, celui où tout d'un coup, il y a des épis qui arrivent, qui vont donner 30, puis 60, puis 100. Bon, ils perçoivent le lien, mais ne comprennent pas tout. Et ils vont demander, effectivement, des explications. Alors, d'après certains théologiens, Jésus ne serait pas l'auteur de ces explications. Il y a des théologiens aujourd'hui qui disent « c'est un rajout ». C'est un rajout et ça ne peut pas être Jésus qui parle. Pourquoi ? Ben parce que il change de style tout d'un coup. Il était dans la parabole et tout d'un coup, il arrive dans un autre style qui est celui de l'allégorie. L'allégorie, c'est le décodage, là. C'est le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. C'est ça, l'allégorie, c'est-à-dire un terme abstrait, et vous faites correspondre à un terme concret, et vice-versa. C'est l'allégorie. Et alors, ces commentateurs disent, mais finalement, non, ça ne doit pas être lui qui a écrit ça. Bon, il faut regarder ça de près quand même, parce que c'est important. Le sens de la parabole, il est dans l'explication, beaucoup plus que dans le premier exposé. Et alors, moi j'ai été un petit peu étonné par cette façon de voir les choses. Effectivement, voilà le texte. Hein. Mais en même temps, je suis allé regarder ce qui se disait dans Marc. Et Marc nous rapporte que, versets 33 et 34, par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir des paraboles. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Voilà ce que dit Marc. Donc, Jésus faisait de l'explication. Pourquoi refuser cette explication de Jésus dans cette parabole précise ? Ah ben, sans doute parce que on n'y dit pas des choses très agréables et que le contenu devient peut-être tout d'un coup un peu difficile à entendre pour les interlocuteurs que nous sommes aujourd'hui, les contemporains. C'est vrai que quand Jésus dit grincement de dents, pleurs, tri, séparation, c'est pas très chouette, c'est pas cool à entendre. On préfère « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », observer les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer, à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Ou alors encore « heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage ». Ça, c'est beaucoup plus fun à entendre. Et tout d'un coup, pourquoi il y a des choses aussi dures qui apparaissent ? Il vaut mieux penser que ce n'est pas Jésus qui les a écrites, qui les a dites. Je ne penche pas véritablement pour cette hypothèse, je vous ai dit pourquoi. Mais ça ne nous n'empêche pas de nous intéresser à ce que dit Jésus dans l'explication, et nous allons y venir juste maintenant. D'abord, c'est plus simplement un semeur. C'est un peu plus que ça, ça devient le Fils de l'homme. Et c'est une expression que Jésus emprunte à dessein. Il emploie référence à ce que, finalement, Daniel avait annoncé. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Et plus tard, quand Jésus paraît devant le grand prêtre, que dit-il ? Alors le grand prêtre reprit en disant : « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit toi-même. » Et de plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. Voilà ce que Jésus reprend à son compte en disant, voilà, je suis celui que Daniel a annoncé. Et je vais au-delà de la notion de Messie. Je suis le Fils de l'homme pleinement humain qui vient pour sauver le monde. Pleinement humain et pleinement divin, et pleinement annoncé par les prophètes. Après, la parabole nous dit que le champ, c'est le monde, d'accord, mais pour les disciples, ça résonne très différemment de ceux qui sont en train de vivre. Eux, ils sont autour du lac de Galilée. Ils sont dans un endroit balisé, connu, dans lequel ils ont gambadé quand ils étaient en culotte courte. Et Jésus leur dit, non, le champ, c'est pas ça. Le champ, c'est beaucoup plus large. Ils ne peuvent pas encore tellement le comprendre, parce que peut-être leur représentation, c'est le monde de juifs de l'époque, ok. Mais à partir de la Pentecôte, ça sera dans un monde bien plus large, où des gens venus d'Europe et d'Afrique repartiront chez eux. Et puis aujourd'hui, on le sait que le monde, le champ, c'est à l'échelle de la planète. Et sur cette planète, au moment où nous parlons, nous nous réunissons, nous avons les produits du semis divin avec des champs qui sont remplis de personnes qui donnent 30, 60 ou 100. Donc c'est bien partout que ça se passe. Le champ s'étend au monde. Troisième élément, la bonne semence. Que sème-t-il ? Eh bien, il sème, alors c'est très particulier cette parabole. Nous sommes à la fois semence et blé. Blé en puissance et blé prêt à ramasser. Voilà ce que c'est que ce que Dieu sème. Et d'ailleurs, cette image du blé, elle est tellement forte que Jésus la reprend dans Marc chapitre 4, versets 26 à 28. Il dit aussi, c'est une variante de la parabole, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. Dès le même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert et enfin les graines de blé remplissant cet épi. Et ça, c'est quelque chose qui émerveille même Jésus, puisqu'il y a cette force incroyable, une fois la semence en terre, invisible, pensez au levain, dans la nature qui nous entoure, et puis cette croissance, et nous sommes en train de le vivre d'ailleurs ces jours-ci, cette croissance est comme à chaque fois un miracle agissant, le fruit d'une puissance invisible mais agissante. Quand on dit que Dieu ne s'occupe pas du monde, alors quelle contre-preuve que celle que nous avons sous les yeux ces jours-ci. Bon, alors on a envie de dire sur la parabole, là ça va, tout va bien, il y a un semeur, il y a la semence, c'est dans le monde entier, c'est parfait. Mais il y a des choses qui deviennent un peu plus difficiles à entendre, qui arrivent tout d'un coup. Et c'est ce que Jésus dit dans cette parabole, il y a un ennemi dans le champ, il y a un ennemi qui est rentré. Il y a bien un autre semeur et il y a bien deux semences distinctes. Et le monde n'est pas serein, il n'est pas harmonieux. Il y a un ennemi dans la création. Et cet ennemi, il a une caractéristique, c'est qu'en plus, c'est un imitateur. Lui aussi, il sème. Lui aussi, il sème. Il copie. Il sème la zizanie. Il sème la mauvaise herbe. L'herbe au pouvoir hallucinogène. Voilà. Et Jésus finira par l'appeler, dans Jean 8, 44, le Père du mensonge. Alors c'est un mystère théologique que personne aujourd'hui ne peut prétendre avoir résolu, que l'existence de cet ennemi de Dieu dans la création. Et nous serons plus tard. Et ce débat sur l'existence même du diable, vous voyez, aujourd'hui, ça divise même jusqu'au sein de l'Église catholique. On a des affrontements en ce moment entre jésuites pour savoir si le diable existe ou n'existe pas. Ben, je ne sais pas, Baudelaire n'était pas catholique, le poète, mais il avait affirmé que finalement, la plus belle ruse et le plus beau mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est Baudelaire qui le dit, ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est le poète Charles Baudelaire. Et en tout état de cause, pour Jésus comme pour les auteurs du Premier Testament, l'ennemi, l'adversaire de Dieu, c'est une entité bien réelle. Souvenons-nous de la tentation de Jésus au moment du début de son ministère, et une entité qui se met en travers de quoi ? Du projet du semeur, du projet du Créateur, et qui en plus limite, et qui en plus agit justement quand la vigilance n'est plus là, quand tout le monde dort. Ça, c'est un mystère que nous ne saisissons qu'en partie aujourd'hui. Deuxième élément, la mauvaise herbe, l'ivraie. Maître, c'est pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient cette mauvaise herbe ? Traduction de la question, comment le mal peut-il exister ? Comment se fait-il que le mal existe ? C'est la question que posent finalement les serviteurs au maître. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu y es pour quelque chose ? Justifie-nous cette existence du mal dans la création ? Et c'est une question qu'on entend autour de nous. Pourquoi le mal ? Pourquoi la souffrance ? Si Dieu existait ? Et bien sûr que nous ressentons que ce n'est pas normal, cette affaire-là. D'ailleurs, nous le ressentons, c'est bizarre, beaucoup plus pour le mal que nous subissons que pour le mal que nous infligeons. Celui-là, il serait à peu près acceptable, mais pas celui que nous subissons. Et tout être humain, quel qu'il soit de conviction chrétienne ou pas, il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'on ne peut pas considérer que le mal soit une composante ordinaire, normale de notre existence. Il y a quelque chose qui nous blesse profondément dans cette affaire-là. Pourquoi un Job souffre ce qu'il souffre ? Même en lisant la fin de Job, c'est dur. Pourquoi, à l'inverse, faut-il que les méchants prospèrent ? Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, Asaph le dit bien mieux dans le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent en rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort et ils ont dans l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Relisez le psaume d'Asaph. Il en a gros sur la patate. Mais à la fin du psaume, il revient à Dieu. Ce psaume 73 est magnifique parce qu'il décrit tout ce que nous pouvons ressentir vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler de l'injustice. Il y en a qui s'en tirent bien quand même. Il y en a qui s'en tirent bien. Pourquoi ? Et pourquoi, pour faire écho à ce que disait Pierre dimanche dernier, faut-il que Jésus aille jusqu'à vivre le ressenti humain de l'abandon sur la croix ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors que juste après, quand il meurt, l'officier romain déclare « Certainement cet homme-là était juste ». Alors je pourrais embrayer sur tous les « pourquoi » que nous entendons autour de nous. Si Dieu existe, alors pourquoi ? Bon, mais ce que je remarque, surtout dans le texte de la parabole ce matin, ce que je veux vraiment remarquer, c'est que si les serviteurs sont scandalisés par le mal, par l'ivraie qui est apparue dans le champ, finalement, c'est qui a le préjudice ? C'est le semeur. C'est le semeur qui subit le préjudice, personne d'autre. Autre élément, une moisson s'annonce. Et ce que Jésus affirme ici, c'est qu'il va y avoir une récolte. L'histoire a une direction. L'histoire n'est pas un recommencement perpétuel. L'histoire a un sens. Et la moisson, c'est la fin du monde, dit Jésus dans l'explication de la parabole. Alors peut-être pas au sens où on l'entend communément, la fin du monde. Parce que finalement, dans la traduction des textes grecs, c'est plutôt la notion d'aboutissement et d'achèvement qui apparaît. Achèvement d'un cycle. Ce qui ne veut pas dire que tout s'arrête, que c'est la fin. Mais en tout cas, il y a un cycle qui va aller jusqu'à son achèvement, jusqu'à un aboutissement, et c'est la question de la moisson. Et il faut peut-être moins imaginer une destruction catastrophique, encore que l'Apocalypse nous donne à voir des choses absolument étonnantes et effrayantes. Il faut aussi se rappeler que c'est aussi l'attente d'un achèvement glorieux et pas simplement destructeur. Et c'est vrai quand même que l'image de la moisson, elle est pas mal, parce que je ne sais pas si vous avez vécu des moissons, c'est plutôt des moments joyeux, quand même. Cependant, la moisson, c'est quand même un tri. Il faut bien dire les choses. Dans le Premier Testament, sous la plume des prophètes, la moisson, c'est un temps de vérité, l'image du jugement. Et Jésus ne dit pas autre chose quand il explique la parabole aux disciples, comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets, et alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, celui qui a des oreilles qui l'entendent. C'est ce que dit Jésus dans l'explication de la parabole et à la fin. Et le temps de la moisson, c'est certes un moment joyeux pour le royaume, mais c'est aussi le temps de la décision, et c'est le temps choisi par Dieu et que lui seul connaît. Alors, et nous dans tout ça, parce que on a beaucoup parlé de la perception de la parabole par les disciples, mais ces paraboles sont là pour nous parler aussi. Je rappelle ce que disait Jean-Marc Tobois, c'est que le but des paraboles dans l'enseignement de Jésus, c'est de nature extrêmement pratique. Elles indiquent la conduite juste à adopter. Quelle conduite adopter ? Alors, est-ce que nous sommes les serviteurs ? Eh bien, alors c'est simple. Allons dans le monde tel que nous le concevons, rétablissons le monde à l'image que nous nous en faisons, arrachons la mauvaise herbe. On attend juste un signe et on y va. On est les serviteurs. Ils ont la solution. On va te nettoyer tout ça. On va revenir à l'idée qu'on se fait d'un champ bien cultivé. Moi, ça me fait penser avec terreur à ceux qui ont la solution à tout sur notre planète, que je redoute par-dessus tout. Et notre histoire mondiale, elle est remplie de ces sauveurs. Remplie. L'enfer est pavé de bonnes intentions, ce n'est pas tout à fait comme ça que c'était dit par Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, qui a fondé l'ordre de Cîteaux, disait « L'enfer est plein de bonne volonté ou désir. » Nous sommes pleins de bonne volonté et de désir. Mais ça fait un enfer à la fin. Donc on ne peut pas remettre en cause cette volonté de servir des serviteurs, c'est très bien. On peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose. Mais pour avoir lu Jean-Marc Tobois, sur ce commentaire de la parabole du bon grain de l'ivraie, il rappelle une chose, que dans le contexte de Jésus, il y avait des purificateurs qui étaient là. Ça s'appelait les zélotes. Et les zélotes étaient des gens qui avaient pris le parti de la violence, un peu les terroristes d'aujourd'hui, où ils intervenaient de façon très simple. Ils se glissaient dans la foule. Sous leurs vêtements amples, il y avait ce qu'on appelle un sika, un poignard recourbé. C'est pour ça qu'on les appelait les sicaires. Et discrètement, ils passaient au milieu de la foule et ils éliminaient les ennemis religieux, les ennemis politiques. Ça, c'était des serviteurs qui étaient allés arracher la mauvaise herbe. Pour eux. Et c'est bien de se rappeler que quand on souhaite être serviteur, il faut déjà se poser la question véritablement de nos motivations. Est-ce que, comme le dit Jésus dans les Béatitudes, c'est ceux qui ont faim et soif de justice et auxquels Jésus promet d'être rassasié, est-ce que c'est d'eux qu'il s'agit quand on parle des zélotes? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt ceux qui ont faim et soif de vengeance, et cette faim et cette soif ne sont jamais éteintes? Donc le maître dit quoi? Non. Dit non. Non. Vous avez une bonne volonté ou un désir, comme dira plus tard Bernard de Clairvaux, mais vous allez faire des dégâts. Vous allez faire des dégâts. Et un commentateur écrit que Jésus ne nous demande pas d'être indifférent à l'erreur, au mensonge, au péché, à la corruption, aux iniquités. C'est pas l'indifférence que Jésus nous demande d'avoir. Mais il nous demande de combattre avec d'autres armes, avec toute la puissance et l'énergie que donnent les armes spirituelles de la parole et de l'Esprit de Dieu. Mais Jésus nous interdit de recourir dans cette lutte à des armes classiques, charnelles, le pouvoir séculier, la contrainte, la violence, les moyens matériels de répression et de propagande. Donc il ne s'agit pas d'être aveugle, il ne s'agit pas de se prendre pour les sauveurs du monde. D'ailleurs, moi j'ai remarqué, comme d'autres lecteurs, que les serviteurs, ils sont dans la parabole, on ne les voit plus dans l'explication. Ils ont disparu dans l'explication de la parabole par Jésus. Ils sont dans la première parabole, ils ne sont plus dans l'explication. Alors on se dit, finalement, si on n'est pas les serviteurs, est-ce que nous sommes les moissonneurs? Je dirai aux moissonneurs, écrit Jésus dans la parabole, avant l'explication. Et on pourrait se dire, ben on va attendre la moisson et puis c'est nous qui jouerons le rôle à ce moment-là. Ben non, là aussi nous nous trompons. Les moissonneurs, ce sont les anges, c'est pas nous. Et le tri, la séparation, c'est précisément la pointe de la parabole ici. Nul n'a le droit de procéder au tri ici et maintenant. Nous n'avons pas le droit, ce droit ne nous est pas donné de trier. Quand la moisson sera ramassée, Jésus demandera de faire le tri, mais pas à nous. Pas à nous. Et ça nous démange, hein. Ça nous démange quand même. Parce que nous avons tous une idée de la justice, de ce qu'il faudrait faire et pas faire. Et ça nous frustre de penser que nous ne sommes ni les serviteurs, ni les moissonneurs. Quelque part. Jésus est venu de temps en temps pour nous frustrer. Mais alors, et je vais conclure là-dessus, qu'est-ce que nous demande Dieu alors? Si le maître du champ nous demandait tout simplement d'être les épis de blé, être des épis de blé qui passent du stade de la semence au stade de jeune pousse, puis de jeune pousse à épis mûrs, portant les uns 30, les autres 60, les autres 100 graines, avec ce miracle qui émerveillait même Jésus, qu'on l'a lu tout à l'heure dans Marc, sans qu'il n'y ait apparemment d'intervention, mais ça se fait. Est-ce que être épi de blé, c'est pas être des parties prenantes du royaume que Jésus veut nous annoncer, inauguré parmi les hommes et qui sera porté à son avènement lorsque Dieu l'aura décidé? C'est Dieu qui sème, c'est Dieu qui fait croître et c'est Dieu qui récoltera. Et ceux d'entre nous ici qui peuvent se dire appartenant au royaume de Dieu sont ceux qui ont reconnu que c'est le maître du champ qui les a semés, qui les fait grandir et qui les renouvelle chaque jour. Autre aspect, être des épis de blé. C'est vrai que c'est l'être dans ce champ et dans ce monde, en partageant le même vent, le même froid, la même chaleur, la même humidité avec d'autres semences et avec d'autres plantes. Et en entremêlant nos racines quelque part, sous terre, en grandissant dans le même temps, en grandissant dans le même espace, mais pas forcément de la même manière. Et en sachant voir que la zizanie existe, sans se voiler les yeux, et pour autant, en cohabitant sans condamner, avec cette même mauvaise herbe quelquefois, il y a des gens qui sont vraiment porteurs de messages qui ne sont pas les messages de Dieu. Et nous vivons avec, et nous vivons ensemble, et nous vivons dans le même monde. Mais alors là, ce que ça réclame, ni juger ni condamner, cela ne nous appartient pas, mais être épi de blé à côté et ensemble. Et enfin, être des épis de blé, c'est aussi espérer la moisson et en louant le maître du champ pour la patience qu'il a d'attendre que le champ soit mûr. En étant prêt aussi à ce que s'opère de temps en temps la mutation des espèces, qui permet à une mauvaise herbe le miracle de devenir elle aussi une plante porteuse de grains comestibles. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis c'est aussi réaliser que on n'est plus promis au tri, on n'est plus promis à la destruction. C'est quand même pas rien. Et enfin, être épi de blé en étant patient nous-mêmes, car nous pouvons bien sûr souhaiter, et je pense que dans le cœur de chacun, souvent cette pensée est arrivée, « Seigneur, si vraiment maintenant tu pouvais mettre un terme et revenir à tout ça, parce que ça ne va pas trop dans le bon sens. » Eh bien voilà, on peut le souhaiter. On peut souhaiter d'une certaine façon une forme de délivrance de choses qui nous assaillent et qui nous oppressent au bout d'un moment, mais pas au point de demander à Dieu de mettre fin à sa patience. Sa patience lui appartient. Alors voilà, c'est vrai qu'un épi de blé, c'est petit, c'est insignifiant en apparence, mais le royaume de Dieu aujourd'hui continue à se construire à partir de cette multitude de graminées que nous sommes partout où nous sommes dans le monde, dans le champ de notre maître semeur. Voilà ce que c'est qu'être épi de blé. C'est déjà beaucoup. Pas sauveur, pas moissonneur, mais juste épi de blé. Amen.